bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons accueillir Christian Bouchardi, qui vient de sortir un magnifique livre, L'Auvergne sauvage, chez Deboré. Un livre vraiment extraordinaire où il nous fait découvrir les trésors cachés de notre belle région d'Auvergne. On va le retrouver dans quelques instants pour parler avec lui, bien sûr, de ce magnifique livre. Voilà, eh bien, chose promise, chose due. Voilà, on accueille Christian Bouchardi qui va nous parler d'un livre absolument magnifique, L'Auvergne sauvage, aux éditions de Boré. Christian, bonjour.
Bonjour.
Alors, Christian, un livre, j'ai été scotché d'abord par la qualité du livre et puis surtout, eh bien, par cette découverte de l'Auvergne hein, qui a des trésors cachés. Alors, des fois, on va au bout du monde. Pour voir des choses, eh ben, peut-être qu'on en a tout près de chez nous, d'aussi belles.
Sans aucun doute. Je le dis toujours, hein, moi j'ai visité peut-être 80 pays dans le monde, hein, parmi les paysages les plus fabuleux, hein, la Patagonie, Ushuaïa, les déserts du Colorado, enfin tout un tas. Et quand je repasse devant les roches Tuyères et Saint-Adoire, qui sont à 30 km de chez moi, ça va faire des centaines de fois que je le fais, et à chaque fois, je m'arrête, je suis émerveillé, j'ai toujours le même coup de cœur.
Alors, je pense que ce livre vous a demandé des années de préparation, parce qu'il a fallu prendre beaucoup de photos, il a fallu choisir, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un livre, même aussi gros qu'il soit-il, on ne peut pas tout mettre.
Oui, c'est évident. On avait fait les... En fait, c'est la fin d'une trilogie. Hein. J'avais fait les deux premiers sur le patrimoine auvergnat. Et puis là, je voulais en faire un uniquement consacré à la nature et la nature la plus sauvage possible. Donc, effectivement, c'est des années et des années de photos. Hein. Je n'ai même pas compté. Mais ne serait-ce que pour la finalisation de l'ouvrage, c'est au moins 2 ans de travail. Finir les photos que j'avais pas, tout trier, faire les textes... Parce que vous avez vu, en fait, on n'a pas fait un classement comme département dans les autres livres. Là, on a fait un classement par type de milieu. C'est-à-dire voilà. Les montagnes, les plateaux, les gorges, le bocage, la forêt. Et donc, on a panaché les départements au sein de chacun des types de sites.
Oui, oui, c'est vrai que vous avez fait donc la montagne, les plateaux, les tourbières, les lacs et étangs, les gorges et les rivières, les bocages et plaines, les forêts. Et puis, vous avez quand même fini par quelques villes et villages.
Oui, voilà. J'ai terminé un petit chapitre à la fin sur ville et village, parce que là aussi, on peut voir de la faune qui n'en est pas moins sauvage.
Alors, bon, moi j'étais un peu surpris, non, c'est par le nombre de lacs qu'il y a en Auvergne, hein, enfin ceux que vous avez cités. Il y en a beaucoup, il y en a qui sont particuliers, mais il y a vraiment de très belles choses. Hein. Puis des lacs qui sont venus différemment, certains après les volcans qui sont sortis de leur, qui sont sortis de la terre et qui ont créé des cratères et qui ont fait des lacs, puis il y en a eu plein d'autres, hein.
Oui, en fait, il y a 3 types de lacs, 3 grands types hein, en Auvergne. Je parle pas des étangs, hein, je parle de ce qu'on nomme lac. Il y a bon, les plus spectaculaires, les plus originaux, c'est les lacs de cratère, évidemment. C'est-à-dire le magma en fusion monte et il rencontre l'eau et il provoque une énorme explosion qui fait des cratères, dans certains, comme celui du Pavin, qui fait quand même 92 mètres de profondeur. Hein. Et puis après, il y a un deuxième type de lac, c'est les lacs d'origine glaciaire. C'est-à-dire que les glaciers, en fondant et en se déplaçant, ils ont surcreusé certaines parties du sol, qui fait que l'eau est captive dans ces creux-là. Elle ne peut pas sortir, il n'y a pas d'émissaire, puisque le terrain est plus haut que le lac sur tout son pourtour. Et puis il y a un troisième type de lacs qui sont artificiels, c'est les lacs de barrage essentiellement, mais qui présentent quand même de l'intérêt sur le plan esthétique et puis sur le plan de la biodiversité. C'est par exemple les barrages sur la Truyère ou sur la Dordogne. Alors évidemment, c'est artificiel, mais il n'empêche que c'est des nouveaux types de paysages qui ont été créés.
Oui, et puis on sait que l'eau, c'est magique quand même. On sait que déjà, sans eau, on ne peut pas vivre. Notre corps est fait, je crois, à 70% d'eau, hein, il me semble, à peu près. Donc on sait que sans eau, on ne peut rien faire. Donc, puis ces lacs qui sont situés, alors moi, je prends ce que je connais. Par exemple, pas très loin de chez nous, le lac du Bouchet, qui est dans un site absolument extraordinaire.
Oui, bien sûr. Bien sûr, et parce que c'est un lac de cratère, lui. Et souvent, ils ont une forme circulaire, les lacs de cratère. Et puis en plus des lacs, il y a les étangs aussi. Hein.
Oui, bien sûr, puisque vous en parlez des étangs.
Ben oui, parce que vous avez des étangs comme celui de Chancelade, par exemple, qui est dans le nord du Puy-de-Dôme, qui fait 120 hectares, qui date du Moyen-Âge. C'est un endroit extrêmement sauvage. Hein. On peut y observer plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux. Il y a des grandes roselières tout autour qui le protègent. Et il y a dans ces roselières, là, qui sont des milieux rares en Auvergne quand même, hein, il peut y avoir des dizaines d'oiseaux nicheurs dans certains très très rares, et puis bien sûr tous les migrateurs qui se posent. Donc les étangs aussi sont à mettre au compte de la variété de la nature sauvage, bien qu'eux aussi soient de création artificielle.
Oui,
certains très très anciennes.
Oui, ces étangs ont été créés il y a des années, c'était comme ça dans les grandes propriétés, il fallait un étang.
Alors, pas seulement, il y en a beaucoup qui ont été créés au Moyen-Âge aussi pour servir de pisciculture, puisque notamment par les moines. Beaucoup d'étangs en Auvergne ont été créés par les moines. Ça leur faisait des réserves de poissons pour la nourriture du vendredi, entre autres.
Oui, puisqu'à l'époque, on mangeait du poisson le vendredi. Hein. Ça, c'est un peu parti. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il fallait manger du poisson le vendredi. Alors bon, des lacs, hein, il y en a plein. Hein. Vous avez même parlé d'un tout petit lac qui est à côté de chez nous, c'est le lac de Malaguet.
Oui. Alors pourquoi j'ai parlé du lac de Malaguet? Pour une bonne raison, c'est que c'est la première réserve naturelle régionale qui a été créée en Auvergne. Il y avait déjà un minimum de protection hein, de la part des propriétaires, mais ça avait besoin d'une officialisation. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est quand j'étais vice-président du Conseil régional d'Auvergne que j'avais initié la création de cette réserve, puisque jusqu'à cette date, il n'y avait aucune réserve naturelle régionale en Auvergne. Donc le lac de Malaguet en fait partie.
Voilà, alors bon, on va voir dans votre livre, enfin les gens vont découvrir dans ce livre hein, tous les lacs hein, que vous avez cités, celui de Saint-Front hein, qui est très haut, hein, qu'on connaît aussi parce qu'il est en Haute-Loire, puis tous les autres, hein, Pavin, enfin il y en a plein, qui sont tous très différents quand même hein, dans l'ensemble.
Oui, c'est vrai, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, c'est ça l'intérêt justement. Même les lacs de cratères entre eux, par exemple, si vous prenez le Pavin ou le Gourde de Tazna ou le lac Chauvet ou le Boucher, eh ben, aucun ne ressemble. Il y en a qui sont tout seuls au milieu des grandes prairies, il y en a qui ont un immense cratère qui est doublé par une partie terrestre, c'est-à-dire l'intérieur du cratère mais hors d'eau, c'est le cas du Pavin par exemple. Et puis il y en a qui sont plus ou moins entourés de forêts au milieu des estives. Enfin bon, effectivement, du point de vue paysage et découverte, il n'y en a pas deux qui se ressemblent.
Alors, vous avez parlé aussi des tourbières. Ça, c'est... Il y en a beaucoup en Auvergne où c'est un petit peu, je dirais, parsemé.
Anecdotique
comme ça.
Non,
anecdotique,
non.
Oui.
L'Auvergne, c'est une des deux régions de France dans lesquelles il y a le plus de tourbières. Alors là aussi, il y a toutes sortes de tourbières. Hein. Il y a des tourbières qui sont dans des anciens lacs qui ont été comblés progressivement. Il y en a qui sont dans des dépressions dues au glacier. Alors la particularité des tourbières, c'est que c'est une eau qui est très acide et qui est captive, puisqu'elle n'a pas de possibilité de sortir. et donc par un hémisphère, hein, pas de possibilité de s'écouler. Et donc il y a des sphaignes qui sont des mousses typiques de ces milieux aquatiques d'eau stagnante qui poussent et qui au fil des millénaires, des centaines d'années, remplissent progressivement les tourbières. Donc il y en a qui sont en phase finale, qui sont bombées, il n'y a pratiquement plus d'eau. Il y en a où il y a encore un peu d'eau, et puis il y en a qui sont encore avec un beau petit lac au milieu, comme la tourbière de la Pignole, par exemple, dans le Cantal.
Voilà, on en a une aussi tout près de chez nous, hein, c'est celle du Mont-Bar à Allègre.
Oui, alors là, c'est extraordinaire, parce que c'est pas un lac de cratère, pour le coup, c'est une tourbière de cratère. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du Mont-Bar, au fond, tout le fond est occupé par une tourbière. Et l'intérêt de ces tourbières, et là, on le montre en image aussi dans le livre, hein, c'est qu'on y trouve des plantes qui sont des reliques glaciaires, c'est-à-dire des plantes qui poussaient chez nous il y a 10 000 ans et qui ont pratiquement disparu de l'ensemble du territoire auvergnat, mais qui se sont maintenues dans ces milieux très spécifiques. Je pense par exemple la linaigrette, la grassette, et puis les fameuses plantes carnivores que tout le monde connaît plus ou moins. Vous savez, ces plantes qui se nourrissent en capturant des insectes grâce à leurs petites antennes dans lesquelles il y a une sorte de glu qui capture les moucherons, les petits insectes qui passent par là.
Alors, les tourbières, alors peut-être que je vais dire une bêtise là, mais en Irlande, on les appelle aussi les tourbières, alors j'avais l'occasion d'y aller, et eux, on sait que les Irlandais se chauffaient avec les morceaux qu'ils enlevaient. Alors, je ne sais pas si c'est des tourbières par contre. Hein.
Ça a été le cas, si, c'est la même chose. Et d'ailleurs, la quasi-totalité des tourbières en Auvergne, enfin en tout cas un grand nombre, ont été exploitées pour faire de la tourbe. C'est-à-dire que la tourbe, en fait, c'est la décomposition des sphaignes qui tombent au fond et qui remplissent progressivement. Et dans les tourbières qui sont plus sous forme de lac, on creuse dans cette tourbe qui peut faire plusieurs mètres d'épaisseur. Et les gens faisaient des petits cubes qu'ils faisaient sécher ensuite, et ils s'en servaient pour se chauffer ou pour faire la cuisine dans les cuisinières. D'ailleurs, quand j'étais encore journaliste à France 3, là, il y a peut-être 25 ans, j'avais même fait un reportage sur quelqu'un à Espinchal, sur le plateau du Césalier, qui se chauffait encore à la tourbe, comme ça.
Ah d'accord, ouais, comme quoi il y en avait encore qui se chauffaient avec... Alors maintenant, ça a un peu disparu, ça, je pense.
Ah ben, ça a complètement disparu, hein, en tout cas de chez nous, hein, mais il y a des pays où ça se fait encore. Mais ça s'est fait pendant des siècles. Hein. Et en plus, la tourbe, une fois séchée, c'est un très bon combustible. Elle brûle lentement, elle garde une bonne braise, et c'est pas difficile à transporter. Bon, il y a du boulot pour aller le ramasser, hein, parce que pour creuser dans une tourbière humide et dégager des petits cubes de tourbe comme ça, les faire sécher, faut pas être feignant, hein.
Voilà, c'est une activité physique. Donc aujourd'hui, on parle de ce magnifique livre de Christian Bouchardy, L'Auvergne sauvage, aux éditions de Boré. Alors, on parle, bien sûr, là, on va parler des forêts, hein, parce qu'il y a de très belles forêts également en Auvergne. Là aussi, vous les avez un peu répertoriées.
Alors, je ne les ai pas répertoriées, parce qu'il y en a énormément.
Vous avez sélectionné plutôt, c'est plutôt...
Voilà, j'ai parlé de quelques-unes des principales, même comme la fameuse forêt de Troncé. Hein. Alors là, c'est complètement différent. On entre dans un milieu complètement différent, parce qu'il peut y avoir des forêts de sapins, il peut y avoir des forêts de feuillus, des forêts de chênes, comme à Troncé. Et l'intérêt, c'est qu'on a une faune encore différente. Alors bien sûr, on a toute la corde des animaux forestiers, hein, martres, renards... sangliers, blaireaux, chevreuils, cerfs. Donc là, c'est intéressant parce que c'est complètement différent de tous les autres milieux. Puis il y a aussi des forêts qui sont très intéressantes, c'est les forêts de pente. Et on en reparlera peut-être puisque je l'ai plutôt inclus, ça, dans le passage sur les gorges. Parce qu'en Auvergne, on est gâté, on a des gorges absolument splendides, hein, et qui sont restées quasiment intactes.
Alors oui, ben, vous avez abordé un petit peu, c'est vrai que alors, dans tous ces milieux qu'on découvre, là, il y a bien sûr les animaux, hein, il y en a beaucoup, il y a des oiseaux, comme vous disiez, dans les forêts, ben, il y a tous les grands cervidés qu'on retrouve, enfin tout un petit peu la population qui est chassée, mais il y a énormément également au bord des rivières, au bord des lacs, des oiseaux aussi. Hein.
Oui, 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 on a en fait... Pourquoi on a une telle richesse en Auvergne? C'est parce qu'on a une grande multitude de milieux naturels ou presque naturels contigus. C'est-à-dire que vous avez à la fois la grande plaine alluviale, comme la grande plaine de l'Allier, la grande zone inondable de l'Allier, où il y a la plus grande réserve naturelle nationale d'Auvergne. Vous avez des gorges somptueuses, hein, et notamment vous, en Haute-Loire, vous êtes bien placé pour les gorges, parce que vous avez les deux. Vous avez les gorges de l'Allier et vous avez les gorges de la Loire. Toutes les deux aussi belles les unes que les autres. Et puis, c'est des secteurs très difficiles d'accès, où il n'y a pratiquement pas de route qui longe ces gorges, et il faut vraiment y aller à pied. Les gorges de l'Allier, par exemple, le seul moyen de les suivre, c'est par le train. Il n'y a que le train qui suit l'ensemble des gorges. Mais si on veut vraiment faire des balades, eh ben, il faut prendre son courage à deux mains, et puis descendre jusqu'au fond, il y a souvent 200 mètres de dénivelé, hein. Et là, vous avez des pentes avec des falaises, des éboulis rocheux, des très belles forêts de feuillus, et tout ça, c'est extrêmement difficile d'accès, extrêmement pentu. Donc, même sans que ça soit classé, ça devient quasiment des réserves naturelles de fait.
Oui, alors les gorges de l'Allier, oui, c'est vrai que puisque le train est le seul moyen de transport, hormis, mais enfin, c'est pas bien moyen de transport, c'est plutôt un moyen de loisir, si on descend l'Allier en canoë ou en bateau.
Oui, mais bon, que ce soit par le train ou en canoë, on voit pas suffisamment bien. Moi, je pense que le mieux pour les découvrir, c'est de s'arrêter sur une petite route qui passe sur le plateau et puis de prendre des petits chemins qui descendent. C'est ça le meilleur moyen.
Voilà, pour aller vraiment découvrir ce paysage des gorges. Alors bien sûr, vous avez parlé, nous, les gorges de la Loire, les gorges du Haut-Allier. On a un mauvais souvenir d'il y a 40 ans, puisqu'il y avait eu les grandes inondations à Brive-Charensac. C'est vrai que la Loire, c'est comme l'Allier, hein, quand ça va tout tranquillement, c'est bien. Mais quand elle se déchaîne, on a vu ce que ça peut faire, quoi.
Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas aménager les abords des rivières, que ce soit en plaine comme dans le Val d'Allier ou que ce soit dans les gorges, il peut y avoir considérablement de dégâts. Et puisque vous abordez la question, eh ben, on l'a bien vu ces dernières semaines là dans le Midi. Il y a d'ailleurs un très beau dicton, un vieux dicton, qui est pas très connu mais qui explique bien tout. Il dit en deux mots, c'est la rivière qui parle aux hommes et elle leur dit: si tu veux pas que je finisse dans ton lit, ne construis pas dans le mien.
Ah, très bien. Ouais, c'est un peu exact. On a construit un peu n'importe comment et n'importe où. Et après, quand il y a des catastrophes, eh bien, les hommes, souvent, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est là qu'on voit que la protection de la nature peut avoir un rôle social et économique important. Pour continuer dans le sujet dans lequel on est, si vous préservez les abords des rivières pour en faire des zones protégées, eh ben la rivière va divaguer, elle va inonder ces zones naturelles et elle n'ira pas dans les villes et les villages. Et puis d'un autre côté, dans la plupart des réserves et des zones protégées, c'est là que sont les puits de captage d'eau potable. Donc ça veut dire que on est sûr que les puits d'eau potable ne seront pas pollués, puisque l'ensemble des réserves, hein, c'est le cas par exemple dans le Val d'Allier, eh ben font qu'on est dans des terrains qui sont intacts et où l'eau va pouvoir s'infiltrer tranquillement à travers les couches du sol. Il faut savoir que, par exemple, la rivière Allier, elle produit l'eau potable à plus de 60% de la population, hein, dans le département de l'Allier.
Oui, c'est énorme, hein. C'est vrai que c'est absolument énorme. Alors bon, avec toutes ces rivières, enfin ces fleuves, hein, puisqu'on a la Loire qui traverse la Haute-Loire, on voit que c'est très important et même on s'en rend compte, mais c'est vrai qu'on met toujours un petit peu de temps, les humains, puisque on avait un peu perdu les zones humides et maintenant on est en train d'essayer d'en reconstituer.
Oui, c'est la raison pour laquelle j'en parle dans le livre. Et j'ai insisté, parce que j'ai fait un chapitre très conséquent sur les tourbières et les zones humides, justement. Hein. Parce que la ressource en eau, c'est quand même vital, hein, pour nous.
Ah ben, c'est même la principale chose, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour tout le monde. L'eau, c'est essentiel à la vie, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Sans eau, on ne peut plus vivre, hein, apparemment. On voit bien, d'ailleurs, dans les pays où il n'y a pas d'eau, comme c'est compliqué. Hein. Alors, on fait un petit peu le tour, là. Puis alors, bien sûr, on n'est pas dans les Alpes, mais on a quand même des belles montagnes en Auvergne.
Eh oui, je vous disais, souvent en rigolant, je dis en Auvergne, il nous manque que la mer. Mais c'est vrai qu'on a des montagnes, et puis des belles montagnes, parce que vous prenez ne serait-ce que les Monts d'Or, le massif du Sancy, qui, je le rappelle, est le point culminant de tout le massif central, hein. Et puis, bien sûr, les Monts du Cantal. Alors là, moi, je trouve merveilleux, là, les Monts du Cantal. Hier, par exemple, les plateaux aussi, hein. Hier, j'ai passé toute la journée sur le plateau du Cézallier, où j'ai fait plein d'observations extraordinaires, plus le paysage qui est fabuleux, hein. Et puis les monts du Cantal, vous savez, c'est, je l'explique bien dans le livre, hein, c'est tout un tas de vallées en étoiles. En partant du centre, hein, c'est-à-dire le plan du Cantal, le Puy-Marie, le Puy-Griou, on a tous les pointements volcaniques là. Et puis après, les vallées partent en étoiles sur tous les horizons. Et c'est des immenses vallées glaciaires qui ont été creusées, et puis ensuite par l'érosion et par les rivières. Et là, c'est des paysages qui sont absolument somptueux. Il n'y a pratiquement aucune pollution visuelle, il y a très peu d'aménagement. Et pour redire encore l'intérêt entre économie et nature préservée, c'est un sacré atout économique. Hein. Parce que les touristes qui viennent, et notamment cette année, il y en a eu énormément, ils ne viennent pas pour voir des zones commerciales et industrielles, hein. Ils viennent pour voir des paysages préservés. Et là, que ce soit le massif du Sancy ou les monts du Cantal, il y a certaines vallées qui sont quasi intactes.
Alors c'est vrai que le Covid-19 a peut-être, c'est pas marrant, mais a peut-être remis des choses en place.
Oui, parce qu'il y a des gens, ben moi je l'ai vu, hein, parce que dès que on a été déconfiné, on a été se balader, et il y avait des gens de tous les départements français, et bon, moi je parlais souvent avec eux sur les chemins, les gens qu'on croisait. Beaucoup me disaient, on n'était jamais venu en Auvergne, et comme on voulait pas partir à l'étranger ou au bord de la mer parce qu'on avait peur qu'il y ait trop de monde, ils ont découvert notre région qui est absolument magnifique, hein, c'est sûr. Je pense que c'est pas du tout exagéré de dire que on a une richesse. D'ailleurs, vous savez, il y a un classement des sites Natura 2000 en Europe, hein, c'est-à-dire tous les plus beaux sites, les mieux préservés. Et ben l'Auvergne. Alors sur les anciennes régions, hein, par rapport aux anciennes régions, l'Auvergne était classée quasiment en deuxième position pour le nombre de sites et la variété des sites de grand intérêt écologique.
Oui, alors moi je connais un peu plus le Lioran quand vous parliez des monts du Cantal, qui est en plus une station hivernale. Et c'est vrai que toujours moi dans ma tête, je trouvais que c'est celle qui se rapprochait le plus des Alpes.
Oui, c'est vrai. Enfin, toute proportion gardée, parce que.
Non, mais bien sûr, oui.
Parce qu'avec le réchauffement climatique, si ça continue dans les décennies à venir, je pense que nos petites stations de moyenne montagne, elles risquent de pas mal manquer de neige. Hein. D'où l'intérêt, justement, de pas tout miser. Enfin, là, on sort un peu du sujet du livre, hein, mais tout l'intérêt de pas tout miser sur la neige et puis sur les stations, mais de faire un tourisme qui soit plus diffus. Et qui puisse bénéficier à l'économie régionale sur l'ensemble de l'année.
Ouais, mais je pense que on est en train de se rendre compte de ça. On va juste faire une petite pause musicale parce qu'on n'a pas fini de parler de ce livre. Alors j'ai choisi, c'était obligé, hein, Mon Auvergne par Bernard Houdou. Et on se retrouve tout de suite après.
Bercé par les couleurs d'insouciance, mon Auvergne attend. Je vous garde. l'abri des soucis, sans béton, sans les armes et sans cri. Mon Auvergne a tout donné. Mon Auvergne a tout donné. Même si je vise au soleil, tant d'avant, tant présence entre mer, au souvenir jamais infidèle, mon Auvergne a tant aimé. La patrie de mon père, de ma mère, je la garde au fond de moi. Nous venons de cette terre, cette Auvergne dont nous sommes si fiers, le berceau de nos pères, de nos mères, je vous garde au fond de moi. Je vous garde au fond.
Bernard Odoul, qui chante l'Auvergne. Nous sommes en compagnie de Christian Bouchardy qui nous parle de son superbe livre L'Auvergne sauvage aux éditions de Boré. Alors, je dirais, Christian, vraiment une chanson là, de Bernard Odoul qui adore son Auvergne. Hein.
Oui, et il n'est pas le seul. Hein.
Oui, il a fait une très belle chanson hein, sur... sur cette Auvergne. Alors, on va parler peut-être, on en a dit un petit tout à l'heure, on a fait un petit passage sur les gorges, mais avec les gorges, il y a les rivières, et c'est vrai que ça soit dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, dans la Haute-Loire, le Cantal, il y a des rivières magnifiques avec qui font le bonheur des pêcheurs de truites, un peu moins des pêcheurs de saumon, puisqu'il a disparu, on essaye de le remettre, c'est un peu compliqué.
Oui, en fait... Oui, j'évoque bien sûr le saumon, hein, parce que le saumon de l'Allier, il remonte. Enfin, vous le savez, hein, il naît dans les gorges de l'Allier, il descend tout l'Allier, toute la Loire, il va en mer et puis il remonte jusqu'aux îles Féroé, au Groenland. Il grossit là pendant quelques années, il retraverse la mer, il retrouve l'embouchure de la Loire. Quand il arrive à la confluence de l'Allier, il ne se trompe pas, il remonte l'Allier et il revient frayer chez nous. Alors, évidemment, il y en avait des dizaines de milliers hein, au début du siècle. Maintenant, il y en a beaucoup moins, mais ça reste quand même une espèce emblématique. Hein. Tout est fait pour la sauver, d'ailleurs, mais c'est compliqué parce qu'il y a un tas de phénomènes qui expliquent sa régression. Mais c'est quand même un atout majeur.
Ouais, et puis alors je sais, l'histoire, je pense que c'est pas une légende, hein, parce que on disait quand le chemin de fer s'est construit, les ouvriers avaient mis une condition dans leur contrat de pas manger plus de 3 fois de saumon dans la semaine.
Oui, oui. En fait, et pas que ceux du chemin de fer, hein, c'était aussi les ouvriers agricoles.
Ouais, enfin tous, quoi. Oui.
Voilà. Oui, oui, il y en avait énormément. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais les captures, ça se comptait par milliers, hein, chaque année. Mais bon, malheureusement, maintenant, on est plus proche de 500 que de 20 000. Hein. Oui, mais n'empêche que, je le redis, Il n'y a pas une seule rivière aussi éloignée de la mer qui garde encore des saumons que les rivières auvergnates, notamment l'Allier et ses principaux affluents. Il y en a un peu sur la Sioule, il y en a un peu sur la Dore, il y en a un peu sur la Lannion aussi.
Eh ben, on espère que dans les années à venir, ils vont revenir. Alors oui, dans ces gorges, hein, vous avez parlé bien sûr du Haut-Allier, de la Loire, il y en a d'autres, hein, il y a la Dordogne, il y a Chavanon, il y a la Sioule aussi. Et là, il y a d'énormes rivières hein, qui sont toutes plus belles les unes que les autres.
Oui, puis vous avez des rivières, puis la Dordogne, hein, n'oublions pas
la Dordogne aussi.
Les gorges de la Dordogne, puis toute la Dordogne qui longe le département du Cantal, hein, dans la partie ouest du département du Cantal, qui est longée par la Dordogne sur une grande distance. Et les gorges, prenons l'exemple des gorges du Chavanon, par exemple. J'ai fait un petit chapitre, que vous avez vu, j'ai fait des photos là avec des couleurs d'automne et de la rivière. Mais ça, c'est une petite rivière que quasiment personne ne connaît, qui fait la limite entre le département du Puy-de-Dôme et puis le département de la Corrèze. Ça se passe quelque part aux alentours de Messey, là où il y avait les anciennes mines. Hein. Et ben ça, c'est des endroits qui sont absolument somptueux. Il n'y a pratiquement aucune dégradation. Et où qu'on soit dans les gorges, tout est beau. Et là, il y a une faune considérable. Bon, par exemple, la loutre, qui s'était maniée sur les têtes de bassin, c'est grâce aux gorges du Chavanon qu'elle a pu, en recolonisant, après sa protection dans les années 70, qu'elle est descendue et elle a recolonisé la Dordogne et puis tous les affluents. Le Chavanon, c'est une rivière qui se jette dans la Dordogne au niveau du barrage de Bord-les-Orgues, dans la retenue du barrage de Bord-les-Orgues. Et bien ça, c'est des coins, franchement, on a vraiment l'impression d'être dans de la nature sauvage.
Hein. Ah oui, là, les photos que vous avez mises dans votre livre, ça donne totalement cette impression. Hein, d'être.
Ouais.
On voit d'ailleurs, on voit les loutres, on voit les écrevisses. Hein, et puis il y a tout le reste. Hein,
un endroit où vous avez encore de l'écrevisse à pattes blanches, vous savez qu'elle est en train de disparaître.
Oui.
Malheureusement à cause de la concurrence des écrevisses américaines. Mais bon, une rivière dans laquelle vous avez encore de l'écrevisse à pattes blanches, de la loutre et de la moule perlière, sans parler de tout le reste, mais là je parle de trois espèces patrimoniales qui ont été menacées au niveau européen et qui sont devenues très rares, eh ben, il n'y a pas beaucoup de rivières qui peuvent se vanter d'avoir tout ça, à part justement le Haut-Allier, enfin en tout cas quelques affluents du Haut-Allier.
Très bien. Donc, on continue de découvrir l'Auvergne sauvage de Christian Bouchardy aux éditions de Boret. Et on va parler aussi un peu bocage et plaine, parce qu'il n'y a pas que des montagnes, il n'y a pas que des gorges, il y a aussi des plaines et des jolis bocages.
Alors, le bocage, c'est typiquement le type de milieu artificiel qui a été créé par le travail de générations et des générations de paysans. C'est-à-dire, chacun avait sa propriété. Ils travaillaient partout, il n'y avait pas un mètre carré qui n'était pas travaillé. Mais là, on avait des petites parcelles, on avait des prairies, de forges, des prairies naturelles. Il y avait des haies, il y avait des bosquets, des talus, des petits chemins, des petits étangs, des forêts par-ci, par-là. Et là, pour qualifier le bocage, on emploie souvent le terme de mosaïque. Parce que le bocage, c'est effectivement une mosaïque de milieu. Et alors, il faut pas du tout, quand on s'intéresse à la nature et qu'on étudie la biodiversité, et notamment la faune sauvage, il faut pas du tout négliger le bocage, parce que maintenant, il y a beaucoup plus d'oiseaux dans le bocage que dans bien d'autres secteurs, notamment dans les grands secteurs de plaines céréalières. Et vous savez que on a fait des études sur le nombre d'oiseaux nicheurs. Ben, si vous prenez... 1 kilomètre d'une très belle haie. Une belle haie, c'est quand il y a un niveau avec des herbacées en bas, un niveau avec des arbustes au milieu, et puis un troisième grand niveau avec les grands arbres, des ogées. C'est une haie complète. Ben là-dedans, vous pouvez avoir 50 nids d'oiseaux de plus de 30 espèces. Alors que si c'est le long d'un barbelé ou d'une petite haie minable, et ben vous n'en avez plus qu'une dizaine de nids et pour 3 espèces seulement. Donc ça prouve bien, et il n'y a pas que les oiseaux, hein. Vous avez tous les petits carnivores, vous avez les amphibiens, et puis les plantes, bien sûr. Donc ouais. pour moi, le bocage, c'est un magnifique milieu.
Oui, alors on voit là, vous avez un peu recensé tous les oiseaux, hein. On voit les hérons, hein. Vous dites qu'il y a 5 espèces de hérons, hein. Il y a une magnifique photo là avec le vol de grues cendrées au-dessus du Val d'Allier. Et puis,
bien sûr. Ça, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Avec un copain, en fait, on n'était pas du tout parti pour les grues cendrées, ni même pour le coucher de soleil. Hein. On était parti pour observer des castors au bord de l'Allier. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a aussi des castors dans l'Allier. Surtout dans le département de l'Allier, et puis un peu dans celui du Puy-de-Dôme. Hein. Et donc, on était là, on s'était planqué pour observer le castor. Et à ce moment, il y a eu un coucher de soleil somptueux, comme on en voit rarement, très très beau. Et alors la cerise sur le gâteau, juste au moment où j'allais prendre des photos, on a entendu un vol de grues cendrées. Et vous avez raison, c'est pour ça que je l'ai mis en double page dans le livre. Hein. Comme le livre est assez grand, on voit très bien. On a un très beau coucher de soleil. Et puis on a un vol en V de grues qui passe en plein dans ces lueurs rougeâtres du soir. Ça, c'est le coup de peau qui arrive une fois de temps en temps, mais c'est rare.
Faut être là.
Et, voilà, il faut être là.
Et c'est vrai que la photo est magnifique, le coucher de soleil, ces oiseaux qui passent. Ouais. Là, c'est vraiment une des très, très belles. Alors, elles sont toutes belles, mais il y en a toujours une qui aura un peu plus... certains vont la trouver un peu plus belle que les autres, hein, mais bon, il y en a tellement qu'on y passerait toute la soirée. Vous allez parler du castor. Il y a même des tortues.
Alors, la tortue, il y a une tortue, j'en parle d'ailleurs, elle est en photo dans le livre aussi, bien sûr, qui s'appelle la cistude. Hein, c'est une tortue d'eau douce de chez nous, qui est une tortue autochtone. Hein, il y en a toujours eu. Bon, il y en a de moins en moins. Et elle aussi, elle souffre de la concurrence. Alors, c'est pas les écrevisses américaines, là, mais c'est encore l'Amérique, puisque c'est les tortues de Floride. Vous savez, à une époque, on vendait ça dans toutes les jardineries, c'était des toutes petites tortues qui ont sur les joues, une petite marque rouge, là, on les reconnaît facilement, elles étaient bien vertes. Alors, on offrait ça aux gamins, on mettait ça dans un petit aquarium minable. Et puis, au bout de 15 jours, il fallait le nettoyer, donner à manger, ça amusait plus personne. Et hop, on les relâchait dans les étangs et dans les rivières. Et donc, elles se sont multipliées. Elles sont plus résistantes à la pollution que les nôtres, que la tortue cistude autochtone. Et puis, elles sont plus costauds. Et donc, elles font une concurrence terrible aux cistudes. Ça veut dire que quand on étudie la nature aussi, on prend conscience du problème des espèces exotiques envahissantes.
Oui, ben bien sûr, hein, ça c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça. Donc, puis dans votre livre, il y a un petit chapitre sur quand même les villes et les villages. On sait que vous avez fait beaucoup sur le patrimoine. Vous avez voulu, dans ces villes et villages, parler un peu de la faune. Hein.
Oui, parce que en fait, il y a beaucoup d'espèces qui vivent en ville, qui sont discrètes, qu'on ne voit pas. Mais par exemple, si je prends l'exemple de la fouine, les fouines, elles sont dans toutes les villes, parce qu'elles nichent dans les greniers, dans les combles. Et on les voit pas parce qu'elles sortent la nuit, mais c'est une espèce qui est relativement commune en ville. Le renard, de plus en plus, on a des renards en ville. Et puis vous avez des oiseaux, par exemple, vous avez dû voir ça déjà, les corbeaux freux. Ils ont compris qu'ils se faisaient tirer dessus dans la campagne, donc ils se sont réfugiés en ville, et ils vivent en colonie, vous savez, tout en haut des grands arbres. On les voit facilement parce qu'ils font leur nid au moment où il n'y a pas encore de feuilles. Et il y en a dans beaucoup de villes, hein. Et même dans des endroits bruyants et mouvementés, mais ils savent qu'ils sont tranquilles. Puis vous avez aussi des rassemblements des tourneaux.
Ah oui.
À partir de l'automne, on a des vols des tourneaux fantastiques. Et ben il y en a plein, ils se posent carrément en ville, sur les grands pylônes électriques, sur les fils, sur les monuments, ou sur les arbres de certaines places. Puis bon, il y a toute une petite faune commune. Parce que dans ville et village, si c'est un village qui est beau, avec des lotissements autour, vous avez une multitude de jardins. Et donc, tous ces jardins avec leurs fleurs, avec leurs arbres, plus les nichoirs, les mangeoires que les gens posent de plus en plus, ça attire et ça maintient toute une petite population d'oiseaux, comme les bésanges, les rouges-gorges, les chardonnerets, les verdiers. Et ça aussi, c'est de la biodiversité.
Voilà,
d'ailleurs,
je vous en prie. Oui, je vous écoute. Ah ouais, on a un petit souci. Ah ouais, on a un problème. Nous étions en compagnie de Christian Bouchardy pour son livre magnifique, hein, L'Auvergne sauvage. Chez Deboré, la préface est d'Alain Bougrain-Dubourg. Hein, c'est pas n'importe qui. Alors, c'est un livre qu'on peut conseiller déjà. C'est un très beau cadeau de Noël. Et puis peut-être en voyant un petit peu plus loin, Et bien, si des fois vous partez chez des amis, même en France, à l'autre bout de la France ou à l'étranger, et bien, si vous cherchez un cadeau à faire, offrez-lui ce livre ou offrez-leur ce livre, parce que là, il va être scotché et voir qu'on habite quand même une région magnifique. C'est un peu ça, Christian ?
Oui, super, c'est bien, je vous remercie.
Non, mais c'est ça, je peux vous dire que voilà votre livre. Alors, il y a un de vos compatriotes aussi qui vient d'en sortir un, c'est Daniel Bruges sur les vaches.
Oui, je le sais, je le connais bien, c'est un vieil ami.
Ah ben Daniel, c'est un personnage aussi. Hein,
Oui.
Mais son livre, là, qu'il a fait ce coup-là, c'est pas lui qui a fait les aquarelles, mais il a fait avec la photographe Florence Baruel. C'est un livre aussi qui est très très beau. Hein.
Oui, je l'ai vu. Oh, mais il travaille bien, Daniel.
Hein. Ouais. C'est un cantalou aussi.
Je sais, je connais très très bien.
Oh ben, je commence bien que vous connaissez, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, Christian, merci d'être avec nous. Puis encore, bravo, hein, parce que ce n'est pas pour vous passer de la pommade dans le dos, mais je pense que vous avez mis beaucoup de temps, il a fallu trier beaucoup de photos. Et bien aux sûr. Auditeurs qui nous écoutent, eh bien, ce livre, vous êtes obligés de l'avoir dans votre collection, parce que on est Auvergnat, on est Velave aussi, mais on croit connaître notre région. Eh bien, vous allez voir que vous êtes loin de tout connaître. Merci d'avoir été avec nous, Christian.
C'est moi qui vous remercie une fois de plus.
Il y aura un prochain livre, peut-être ?
Là, j'en ai deux qui sortent en même temps, en plus de celui-là.
Ah, d'accord.
Il y en a un pour les enfants là, qui s'appelle Les Aventures de Renette. Et puis, j'ai un livre beaucoup plus engagé là, pour dénoncer le massacre de la faune qui s'appelle Préservant la vie sauvage, halte au massacre.
Très bien. Ouais, il faut un peu remettre un peu au goût du jour parce que ouais. L'homme fait n'importe quoi. On parle de prédateur, mais je pense que c'est le plus grand prédateur de la nature.
Hein. Oui, c'est sûr. On est imbattable dans ce domaine.
Merci beaucoup, Christian.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne soirée, au revoir. Oui, Christian Bouchardy qui nous a parlé de son livre magnifique, hein. J'y reviens, mais je peux vous dire, vous le découvrirez, hein, bien sûr, puisqu'il est chez nos amis Viviane et Marie-Pierre au plaisir des mots. C'est un cadeau de Noël. Alors, on cherche des cadeaux originaux. Celui-là, je peux vous dire qu'il l'est. Il est très abordable et vous allez rester baba quand vous allez le regarder. On va se quitter en musique, hein, puisque Oisou, c'est un groupe auvergnat qui nous joue une mazurka de Servant. C'est une chanson auvergnate.
Thank you. Dans les gorges de la Sioule, on croisait parfois les parigots. Quand ils voulaient des grenouilles, on leur donnait crapaud. On leur faisait boire de l'hydromel, puis ils repartaient en criant. On a vu le monstre du Loch Ness au bord de l'étang de Cervant.
Voilà, eh bien c'est ainsi que s'achève cet invité du jeudi, Christian Bouchardy, pour son livre L'Auvergne sauvage aux éditions de Boret, était notre invité. Cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore de votre fidélité et vive l'Auvergne.